L'accent des autres avec les médias francophones publics.
Et voici l'actualité de la semaine vue par France Bleu, la radio-télévision suisse, RFI, Radio-Canada et la RTBF. Et d'abord cette condamnation en Belgique, Jacques Kremers, 1 an de prison ferme pour un ex-député du parti d'extrême droite flamand Vlaams Belang.
Oui, 1 an de prison ferme, le tribunal correctionnel de Gand a prononcé une peine sévère, un jugement historique, a commenté l'un des avocats des partis civils, pour qui il adresse un signal au potentiel semeur de haine.
Ce sont des données alarmantes. Un nouveau rapport réalisé au Canada sur l'exploitation sexuelle des enfants révèle des chiffres en hausse, Nadi Mobarak.
Oui, les cas de pornographie juvénile en ligne rapportés par la police ont presque quadruplé au pays entre 2014 et 2022.
La fin de vie en discussion en France. Le président Macron se dit favorable à la possibilité de demander une aide à mourir sous certaines conditions. Il s'agit d'aller au-delà de la sédation actuelle. Et pour ceux qui défendent le droit à l'euthanasie, c'est essentiel.
Il y a une injection létale, vous pouvez décider, c'est ce qui se passe en Belgique, du jour et de l'heure. Ils ont le temps de rencontrer leur famille, tous les gens qui veulent voir, c'est essentiel.
Le printemps revient et comme chaque année, la Suisse voit revenir aussi les caravanes des gens du voyage. Laurent Caspary, il se rend en Suisse pour travailler pendant la belle saison.
Et le travail ne manque pas, les affaires sont bonnes manifestement. Rencontre avec un chef de clan des gens du voyage sur fond de polémique. Les places manquent pour accueillir ces véritables villages éphémères.
Enfin, au Rwanda, l'opposante Victoire Ingabire ne pourra pas se présenter à l'élection présidentielle de juillet prochain, Nicolas Sûr.
Elle est l'une des rares figures de l'opposition au président Kagame, mais elle reste privée de ses droits civiques depuis une condamnation. Un tribunal a refusé de les lui rétablir.
Voilà pour les titres. Bienvenue dans l'accent des autres. Un ex-député d'extrême droite condamné donc à de la prison ferme en Belgique. Un jugement sans précédent devant le tribunal correctionnel de Gand en Flandre. Dries van Langenhove, c'est son nom, est condamné à 10 années ferme pour infraction à la loi sur le racisme et le négationnisme, Jacques.
Et ce n'est pas tout, il est aussi condamné à 10 mois de prison avec sursis pour détention d'armes, à une amende et à une interdiction d'exercer ses droits civils pendant 10 ans. Dries van Langenhove, c'est un ex-député du parti flamand Vlaams Belang, mais en 2018, encore étudiant, il était déjà le leader du mouvement nationaliste flamand Schildenvrienden, très actif surtout sur les réseaux sociaux, où il publiait des messages racistes, antisémites ou sexistes. Le tribunal a souligné qu'il avait entraîné d'autres personnes dans un discours raciste et négationniste. L'accusé était passionné par les idées nazies et voulait mettre à mal le vivre ensemble, a dit le président. De quoi satisfaire les partis civils et notamment Cathy Verstreppen de la Ligue des droits humains.
De ce qu'on a entendu ce matin, c'est que le racisme, c'est intolérable ici en Belgique. Si on est coupable, on est puni. Et c'est ça ce qui est très, très, très important, qu'on ne peut pas dire n'importe quoi. Il y a vraiment des limites à la liberté d'expression.
C'est un jugement historique, a encore commenté un avocat des partis civils, soulignant que la société doit être protégée contre les appels à la haine et que ce jugement constituait un signal adressé aux potentiels semeurs de haine. Dries van Langenhove, lui, n'était pas présent au tribunal. Son avocat a dit qu'il ferait appel. Quant au président du Vlaams Belang, il a dénoncé ce qu'il appelle une justice belge pourrie, un discours antisystème familier aux partis d'extrême droite.
Ces chiffres inquiétants à présent au Canada, les cas de pornographie juvénile en ligne, les cas rapportés par la police, ont presque quadruplé entre 2014 et 2022, Nadi.
Voilà, dans son rapport, Statistique Canada précise que les cas d'exploitation sexuelle des enfants en ligne sont passés de 50 à 160 affaires pour 100 000 enfants et jeunes de 2014 à 2022. Le caporal Philippe Gravel, qui est enquêteur au Centre national contre l'exploitation des enfants de la GRC, constate cette augmentation depuis des années.
On voit une augmentation d'année en année des signalements, tout autant au niveau de la pornographie juvénile, au niveau de la sextorsion, au niveau de la distribution d'images intimes au niveau des jeunes là, entre eux.
Les 3/4 des cas signalés débouchent sur des accusations criminelles, mais seulement le tiers des accusés sont reconnus coupables à l'issue de leur procès.
Alors comment expliquer cette hausse?
Eh bien, selon Statistique Canada, cette augmentation s'explique par la hausse réelle de ce type de crime, mais aussi par un plus grand nombre de signalements et par une plus grande efficacité des policiers affectés aux enquêtes. Voici l'analyste à l'Agence fédérale, Samuel Perrault.
Il est possible qu'il y ait plus de cas maintenant que si on recule il y a 10 ans, ce qui est tout à fait possible compte tenu que l'Internet prend de plus en plus de place dans la vie de tous les jours.
Samuel Perrault de Statistique Canada.
Et par ailleurs, Nadi, certains affirment qu'il y a beaucoup de faits qui ne sont pas signalés.
Oui, pour René Morin du Centre canadien de protection de l'enfance, la situation actuelle n'est que la pointe de l'iceberg.
Ce que ce rapport-là ne montre pas, c'est tous les cas qui sont passés sous le radar des autorités pour toutes sortes de raisons, parce que la victime avait honte.
Selon lui, il faut en faire plus et le projet de loi fédéral pour lutter contre le contenu préjudiciable en ligne est un pas dans la bonne direction. Statistique Canada souligne que les filles sont surreprésentées parmi les victimes pour tous les types d'infractions. Les garçons et les hommes représentent quant à eux la très grande majorité des auteurs d'infractions commises en ligne contre des enfants.
Le débat sur la fin de vie en France, à présent avec pour la première fois le président Macron qui confirme les choix du gouvernement sur la possibilité de demander une aide à mourir sous certaines conditions strictes. Le projet devrait faire l'objet d'une première lecture à l'Assemblée nationale au mois de mai. Une injection létale donc, mais à certaines conditions, notamment être majeur, avoir toute sa tête, être atteint d'une maladie incurable et puis aussi l'accord d'un collège de médecins. Jusqu'ici, c'est la loi Claeys-Leonetti promulguée en 2016 qui encadre la fin de vie du nom d'Alain Claeys, ancien député du département de la Vienne et ancien maire de Poitiers. Et cette loi n'autorise pour l'instant qu'une sédation profonde pour les patients condamnés à mourir. Et ça n'est pas suffisant pour les associations qui militent pour l'euthanasie. Reportage à Poitiers, Anne Livia Tolinki.
La dernière loi de 2016, co-rapportée par l'ancien député de la Vienne, Alain Claeys, permet plusieurs choses. D'abord, obliger les soignants à respecter les directives anticipées du patient.
Étant donné mon âge avancé, j'ai dit que je refusais certaines réanimations.
Françoise Cassado, 80 ans, membre de l'association Le Choix.
Pour un accident vasculaire cérébral et pour un arrêt cardiaque. Et même quand je ne vais pas à l'hôpital, c'est dans mon sac. Si j'ai un accident, c'est dans mon sac.
Mais ça ne suffit pas pour cette militante du droit à mourir et la sédation profonde non plus, le fait d'endormir un patient dans les toutes dernières heures de sa vie.
Plonger les patients dans le coma, ça veut dire que la famille ne verra plus, entre guillemets, qu'un légume. Avec l'euthanasie, c'est différent. Il y a une injection létale, vous pouvez décider, c'est ce qui se passe en Belgique, du jour et de l'heure. Ils ont le temps de rencontrer leur famille, tous les gens qui veulent voir. C'est essentiel.
Le nouveau projet de loi, justement, veut donner aux patients l'accès à ce produit létal en accord avec ses médecins. Alain Claeys le reconnaît, c'est ce qu'il manque dans sa loi.
Il fallait une loi supplémentaire. Ça permettra d'accompagner la personne jusqu'au bout.
Il salue aussi le milliard d'euros promis par le gouvernement pour renforcer les soins palliatifs. Au CHU de Poitiers, le service compte 10 lits pour quelques 439 000 habitants dans la Vienne.
Un reportage d'Anne-Livia Tolinki pour France Bleu Poitou.
L'accent des autres.
Le retour des gens du voyage en Suisse avec l'arrivée du printemps, un retour accompagné de son lot de polémiques pour accueillir parfois des dizaines de caravanes dans certaines communes. Alors pourquoi de nombreuses familles nomades arrivent-elles en Suisse? Eh bien, il est assez simple d'y trouver du travail, Laurent.
Certains secteurs de l'économie suisse sont en manque de bras et si vous avez des compétences dans le bâtiment, par exemple, vous trouvez rapidement de l'embauche. Les gens du voyage l'ont bien compris et de nombreux clans viennent de France pour travailler en Suisse en toute légalité durant la belle saison. À chaque fois, la question du lieu de vie se pose. Cela peut représenter jusqu'à une centaine de caravanes d'un coup et les négociations entre les autorités et les gens du voyage sont souvent compliquées et tendues. Mais les choses évoluent et les places pérennes se créent petit à petit en Suisse romande, car c'est un fait, notre pays est très attractif. Écoutez Monsieur Pascal, chef de clan que notre journaliste Robin Baudra a rencontré à l'intérieur de sa caravane.
On travaille comme tout le monde, on travaille dans le bâtiment. Et pratiquement tous les gens de voyage, on travaille dans le bâtiment. Pratiquement, je vous dis, à 99%, tout le monde est en règle. À part les gamins qui ont 12-13 ans, qui n'ont pas de société, c'est normal, c'est la loi.
Pour votre travail, il y a une demande?
Oui, oui. Il y a des gens qui nous attendent par patience qu'on arrive en Suisse et de commencer les travaux. On va pas dire qu'on va casser le commerce des autres, mais les gens, ils nous attendent pour travailler. On a des chantiers, on a des clientèles, et ils nous envoient des mails, beaucoup, et on a des sites internet aussi. Oui, comme tout le monde.
Là, vous commencez dès cette semaine à travailler?
Oui, dès cette semaine qui arrive, là, on commence à travailler déjà. Oui. commence à travailler, c'est début mars, on travaille. Après, au mois d'octobre, on rentre chez nous, en France.
On l'entend, les habitudes sont désormais prises, raison pour laquelle le canton de Vaud, qui accueille la majorité des gens du voyage, a récemment nommé un délégué cantonal pour les relations avec ses communautés nomades.
On va se quitter sur un rendez-vous électoral au Rwanda. L'élection présidentielle se tient le 15 juillet prochain et on apprend cette semaine que l'opposante au président Kagame, Victoire Ingabire, ne pourra pas être candidate. La haute cour de Kigali a refusé sa demande de recouvrer ses droits civiques, des droits, Nicolas, qu'elle avait perdus en 2015.
Pour les juges, Victoire Ingabire ne remplit pas les conditions exigées. Elle avait perdu ses droits civiques et politiques lors de sa condamnation à 15 ans de prison pour minimisation du génocide. Une condamnation politique avait dénoncé à l'époque les organisations de défense des droits de l'homme qui déplorent le verrouillage de l'espace politique au Rwanda. Après 3 ans de détention, elle avait été finalement graciée par le président Kagame, mais elle ne peut pas se présenter et pour elle, c'est une occasion manquée pour le Rwanda.
C'est une grande déception. Si on est dans un état où il n'y a pas un état de droit, est-ce que vous pensez qu'on peut avoir les élections libres, transparentes? Parce que maintenant, ça prouve que les élections qu'on va avoir maintenant, elles vont être exclusives. Parce que si l'opposition est toujours exclue à cause de la justice, ce n'est pas signe de la démocratie.
L'opposante Victoire Ingabire, donc. De son côté, le président sortant, Paul Kagame, a déjà été investi par son parti, le Front Patriotique Rwandais.
Oui, figure historique du FPR qui avait mis fin au génocide de 1994. Il s'est installé à la présidence en 2020 et se présente pour un 4e mandat. Pour l'instant, seul un candidat, le député Franck Habineza du Petit Parti Vert, s'est déclaré face à lui.
L'élection présidentielle au Rwanda, c'est donc le 15 juillet. C'était Nicolas Sûr et RFI pour se quitter cette semaine. Merci d'avoir été au rendez-vous de l'Action des Autres et à la semaine prochaine.